Chapitre 35. Le vent s'était levé sur le pont à ciel ouvert qui offrait aux voyageurs une vue à 360 degrés sur la Seine. Le visage fermé, Nicky fumait, accoudé au bastingage, le regard fixé au loin sur la majesté et l'exubérance du pont Alexandre III. L'arche, surchargée de statues et de dorures, enjambait la Seine d'un seul tenant. Sébastien la rejoignit. Elle sentit sa présence derrière son dos, mais devina qu'il n'était pas venu s'excuser. « L'accident qu'a subi Camille est ma faute, » reconnut-elle sans se retourner. « Mais n'oublie pas le contexte de l'époque. Notre couple était à la dérive. On se disputait tout le temps. Tu ne me regardais plus. »«
Rien n'excuse ton comportement, » la coupa-t-il.
« Et toi, ton comportement, tu le trouves excusable ? » explosa-t-elle.
Ces éclats de voix attirèrent les regards des personnes présentes sur le pont. Un couple qui se dispute offre souvent un spectacle divertissant. Nicky développa avec la même agressivité.
« Après le divorce, tu m'as expulsé de ta vie, alors que notre couple aurait très bien pu perdurer. Assurément pas en tant qu'amant, non, mais au moins en tant que parent.
Arrête ton jargon de psy, on est un couple ou on ne l'est pas.
Je ne suis pas d'accord. On aurait pu rester en bons termes. Beaucoup de gens y arrivent.
En bons termes, tu te fous de moi ?
Elle se tourna vers lui. Dans son regard, derrière la fatigue et la colère, brillait encore un zeste d'amour. « Il y a eu de très beaux moments dans notre histoire, » insista-t-elle.
« Et beaucoup de choses douloureuses aussi, » rétorqua-t-il.
« Mais reconnais que tu ne t'es pas comporté en adulte responsable lors de notre séparation.
C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, »
lui répliqua sèchement Sébastien.
Nicky monta au front. « Je crois que tu ne mesures pas encore très bien la portée de tes actes. Tu as séparé nos jumeaux. » Tu m'as enlevé ma fille, et tu t'es coupé de ton fils, c'est ignoble.
Mais tu as accepté cet accord, Nicky.
Parce que j'y avais été contrainte et forcée. Avec ton armada d'avocats et tes millions de dollars, tu aurais fini par obtenir la garde des deux enfants.
Elle laissa passer quelques secondes, puis décida de lui asséner quelque chose qu'elle avait toujours tue.
Au fond, tu n'as jamais vraiment voulu la garde de Jérémy, n'est-ce pas ? Demanda-t-elle à voix basse.
Sébastien demeura silencieux.
« Pourquoi rejettes-tu ton fils ? »
insista-t-elle tandis que les larmes lui montaient aux yeux.
« C'est un garçon gentil, sensible et fragile. Il est toujours en attente d'un compliment ou d'une marque d'intérêt de ta part, mais rien ne vient jamais. »
Sébastien encaissa les reproches qu'il savait justifier.
Mais Nicky voulait comprendre. « Pourquoi n'as-tu jamais cherché à le connaître ? »
Il hésita un moment, puis se résigna.
« Parce que c'est trop dur. » « Qu'est-ce qui est trop dur ? » Il te ressemble trop. Il a tes expressions, ton rire, ton regard, ta façon de parler. Lorsque je le vois, c'est toi que je vois et c'est insupportable,
avoua-t-il en détournant les yeux. Nicky ne s'attendait pas à ça. Hébétée, elle réussit à articuler
« Tu as privilégié ton amour propre au détriment de l'amour de ton fils ?»«
J'ai fait ma part du boulot avec Camille, » insista-t-il. « Elle est mature, intelligente et bien élevée. »
« Tu veux la vérité, Sébastien ? »
dit-elle les larmes aux yeux.
« Camille est une bombe à retardement. Tu l'as maintenue sous ton contrôle jusqu'à présent, mais ça ne va pas durer. Et lorsqu'elle va se rebeller, tu risques de t'en mordre les doigts. »
Sébastien se souvint de la boîte de pilules qu'il avait trouvée dans la chambre de sa fille. Radouci, il s'approcha pour l'entourer de ses bras.
« Tu as raison, Nicky.
Je t'en prie, ne nous disputons pas. Restons soudés dans cette épreuve. Je changerai mon comportement avec Jérémy et tu pourras voir Camille autant que tu le voudras. Je te promets que les choses s'arrangeront.
Non, c'est trop tard.
Le mal est fait, c'est irréparable désormais.
Non, rien n'est irréparable, affirma-t-il avec force.
Alors que le bateau passait sous les arches du pont des Arts et du pont Neuf, ils restèrent un instant dans les bras l'un de l'autre. Puis chacun reprit ses distances. Le bateau longeait les berges au niveau des stands des bouquinistes du quai Saint-Michel. Sur l'île de la Cité, on apercevait la conciergerie et, à l'extrémité, la silhouette gothique de Notre-Dame. Plus loin, les somptueux hôtels particuliers de l'île Saint-Louis se détachaient dans la nuit claire. « Essayons déjà de résoudre le mystère de cette clé, » proposa Nicky après avoir écrasé sa troisième cigarette.
« Il y a forcément un indice qu'on a dû louper. Cette mise en scène doit avoir un sens. » Il faut trouver ce que cette clé peut ouvrir.
Ensemble, ils parcoururent le pont supérieur de long en large, cherchant sans succès une serrure ou un cadenas. Le vent soufflait fort, rendant la nuit plus froide. Comme Nicky frissonnait, Sébastien entoura ses épaules de sa veste. Elle refusa une première fois, mais il insista et elle finit par se laisser faire.
« Regarde !» cria-t-il soudain en désignant la rangée de boîtes métalliques qui abritaient les gilets de sauvetage.
Il y avait une demi-douzaine de coffres, chacun protégé par un cadenas.
Nerveusement, ils essayèrent de glisser leurs clés dans toutes les serrures, mais aucune ne se débloqua. Et merde!
Découragé, Nicky alluma une nouvelle cigarette qu'ils se partagèrent en silence, penché sur le garde-corps de la plateforme. Les berges étaient noires de monde, offrant comme une succession de vignettes de petites scènes de vie. Dans une ambiance festive, des familles pique-niquaient, des amoureux se bécotaient, un couple plus âgé dansait au bord de l'eau comme dans un film de Woody Allen. Plus loin, des zonards zonnaient. Des groupes de copines pouffaient en adressant des doigts d'honneur aux passagers. Un punk à chien fumait un joint long comme le bras. Beaucoup d'alcool partout. Litrons, packs de bière, vodka.
« Viens, rentrons, murmura-t-elle, j'ai froid. »
Ils regagnèrent le pont inférieur. Dans le salon, l'ambiance battait son plein. Timide au début du repas, l'assistance reprenait maintenant les chansons à pleine voix. Un touriste américain venait même de faire sa demande en mariage en s'agenouillant devant sa fiancée. Nicky et Sébastien retrouvèrent leur table. Dans l'assiette de Sébastien, un filet de bœuf froid côtoyait une béarnaise figée. Dans celle de Nicky, deux misérables gambas se battaient en duel sur une galette de risotto. Alors qu'ils picoraient quelques bouchées de nourriture mal réchauffée, un violoniste s'approcha d'eux et joua les premières mesures de l'hymne à l'amour. Cette fois, Sébastien le fit déguerpir son ménagement.
« Resserre-moi du vin, » demanda Nicky. « Arrête de boire, tu vas être saoul. Et notre bouteille est vide.
Et alors, si j'ai envie d'être ivre, c'est mon affaire. C'est ma manière à moi de faire face à ce qui nous arrive. »
Nicky se leva et parcourut du regard les différentes tables à la recherche d'une bouteille. Elle en trouva une à peine entamée sur une desserte près du bar et la rapporta à sa place. Elle se versa un nouveau verre sous le regard consterné de son ex-mari. Dépité, Sébastien détourna la tête vers la paroi vitrée. Nouvelle ponctuation dans la croisière, le bateau arrivait devant le tablier d'acier du pont Charles de Gaulle. Plus moderne que les édifices précédents, il ressemblait à une aile d'avion prête à fendre le ciel. Bientôt, le navire éclaira les berges de ses puissants projecteurs, révélant ainsi une misère inattendue. En contrebas du pont, de nombreux SDF avaient installé leurs bardas, leurs tentes, leurs braseros. Un spectacle qui mit mal à l'aise les passagers et ternit l'ambiance jusque-là enjouée. Cela faisait écho au fameux syndrome de Paris. Chaque année, les ambassades rapatriaient ainsi des dizaines de touristes déstabilisés, jusqu'à s'en rendre malades, par le décalage entre la vision idéale du Paris qu'on leur vendait dans les films et celle plus rugueuse de la réalité de la capitale. Sur le bateau, ce trouble ne dura guère. Le navire reprit sa course vers les tours de verre de la grande bibliothèque avant de faire demi-tour au niveau de Bercy pour revenir rive droite vers le Paris historique des cartes postales et des dépliants touristiques. La musique se fit alors plus entraînante et le malaise se dissipa complètement. Nouvelle gorgée de vin. En apparence, l'alcool brouillait l'esprit de Nicky, mais il exacerbait aussi sa sensibilité. Elle était persuadée d'avoir laissé passer quelque chose, une évidence. Elle n'essayait même plus de se concentrer. Ce n'était pas une analyse rationnelle qui l'aiderait à retrouver Jérémy, mais plutôt son instinct maternel. Dans ce genre de situation, l'intelligence des émotions est plus efficace que la logique et la raison. Loin de chercher à brider ses sentiments, elle leur ouvrit les vannes. Elle laissa les larmes affleurer et les images se bousculer dans sa tête. Le présent, le passé se mélangeaient. Il fallait cependant qu'elle trouve la limite, la bonne position du curseur. Ne pas se laisser submerger par l'émotivité, mais l'utiliser de façon constructive pour en capter le message. Fiévreuse, elle regarda par la baie. Tout se mêlait dans son esprit jusqu'à la nausée. Les souvenirs tourbillonnaient, se déformaient, s'amalgamaient jusqu'à se confondre. La musique était forte. Autour d'elle, les gens battaient la mesure. Sur la piste de danse, le personnel se chargeait désormais de l'animation. Serveurs et serveuses levaient la jambe sur un air russe. Kalinka, kalinka, kalinka maya. Elle but une nouvelle gorgée de vin. Malgré la chaleur de la pièce, Nicky grelottait. Combiné à un éclairage stroboscopique, le refrain lui donnait mal à la tête. Kalinka, kalinka, kalinka maya. Le bateau revenait vers son point de départ. À travers les vitres, Elle distingua les balcons et les mascarons du pont neuf, puis la silhouette du pont des Arts se profila à l'horizon. Elle regarda les grillages de la passerelle. Ils brillaient de mille feux. Elle plissa les yeux et aperçut des dizaines, des centaines, des milliers de cadenas accrochés tout le long du pont.
« Je sais ce couvre-la-clé !» s'écria-t-elle.
Elle désigna à Sébastien le vidéoguide encastré dans la table. En se penchant sur le petit écran, ils lurent l'anecdote se rapportant au monument. À l'image du pont Pietra à Vérone et du pont Loutskov à Moscou, le pont des Arts est devenu depuis quelques années un lieu de prédilection pour les amoureux qui viennent y accrocher un cadenas d'amour, symbole d'une union indéfectible. Désormais bien rodé, le rituel est toujours le même. Le couple attache son cadenas au grillage avant de jeter par-dessus l'épaule la clé dans la Seine et de sceller leur amour par un baiser.
« Il faut qu'on descende !»
Ils se renseignèrent auprès d'un maître d'hôtel. Le bateau marquerait une halte au pont de l'Alma dans moins de 5 minutes. Gagnés par l'excitation, Nicky et Sébastien se rapprochèrent de la balustrade pour emprunter la passerelle dès que le bateau accosterait. L'amiral dépassa la façade du Louvre, le port des Champs-Élysées, avant de s'arrêter à son embarcadère au pont de l'Alma. Alors qu'il se précipitait pour débarquer, Nicky attrapa son ex-mari par la manche.
« Attends, il y a des flics !»
Sébastien regarda sur le quai. Une femme en blouson de cuir et un jeune type à la démarche assurée s'apprêtaient à monter à bord.
« Tu crois ? C'est des flics, je te dis, regarde !»
De loin, il aperçut une 307 sérigraphiée aux couleurs de la police nationale. Sébastien croisa le regard de la jeune femme. Les deux flics comprirent qu'on les avait repérés et se ruèrent sur la passerelle. Nicky et Sébastien rebroussèrent chemin. Avant de rejoindre le pont supérieur, Sébastien attrapa sur une table un couteau qui avait certainement servi à trancher un filet de bœuf trop cuit.